Et donc, Hachim vient d'Allemagne. Il était envoyé par son église de Stuttgart et il a sillonné depuis toute la francophonie. C'était vraiment un ministère apostolique d'implantation de centres bibliques, de formation de disciples. Il a un cœur, un grand cœur pour la francophonie et particulièrement pour la France. Et donc là, il est retourné il y a quelques années à Stuttgart. Et il est responsable de la mission dans l'église Gospel Center de Stuttgart. Et donc, il parle très bien français avec un petit accent africain. Parce que vous allez voir, c'est intéressant. Et vraiment, au niveau du réseau héritage, on l'a pleinement accueilli et on veut se servir mutuellement. Servir ce que Dieu l'a mis sur le cœur pour la France, lui ouvrir les portes. Et en même temps, il veut servir les églises locales du réseau. Et il a une vision de multiplication, d'implantation pour notre pays. Donc voilà simplement, Hachim, bienvenue. C'est Joachim en fait, Joachim. Hein? Mais voilà, on dit Hachim. Donc voilà, bienvenue à toi. Je sais pas si tu veux.
Bonjour tout le monde. Je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes très contents d'être là, chez vous, en France, en Alsace. C'est merveilleux. C'est un rêve pour nous qui s'accomplit parce que il y a plus de 30 ans que je me suis converti en France. Et depuis lors, j'ai un cœur et un amour pour la France. Et lorsque le Seigneur m'a appelé après pour aller en Afrique, pendant des semaines, j'ai négocié avec le Seigneur. Seigneur, pourquoi l'Afrique? Pourquoi pas la France? Et le Seigneur m'a dit, va en Afrique. Et après, ce sera la France. Voilà. Et nous avons passé plus de 20 ans, bon, 20 ans en Afrique, en Guinée-Conakry, au Sénégal. À partir du Sénégal, on était en Mauritanie, Gambie, Mali, Guinée-Bissau, etc. Et puis, les dernières années, on était en Algérie, au Maghreb. Et depuis 7 ans, nous sommes en Allemagne, dans notre église mère. Et c'est maintenant. Le Seigneur nous dit de nous préparer pour venir en France. Donc, je m'excuse, vous voyez que je suis, par naissance, je suis allemand. Hein? Par cœur, j'ai été longtemps africain. Hein? Et maintenant, je suis en train de devenir français. Hein? Donc, je m'excuse pour mon langage, j'ai un accent très fort africain, allemand. Hein? Il faut ajouter, j'ai amélioré mon français en Guinée, et en Guinée, le taux de scolarité, le niveau du français est très bas, hein, très simple, hein, parce qu'il y a beaucoup de langues, il y a plus de 20 langues locales dans ce pays. Voilà, c'est les Guinéens qui m'ont appris à mieux parler le français. Donc voilà le résultat. Hein. Même parfois, lorsque j'ai prêché au Sénégal ou bien au Mali, les Africains ont tourné la tête. Ils ont dit, mais comment? Comment un Toubab, un blanc, hein, comment il parle avec la bouche d'un Guinéen? Voilà. Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu. En Luc 5, versets 4 à 11. Luc 5, versets 4 à 11. Nous voyons une rencontre spéciale entre Jésus et Pierre. Et nous voyons un miracle puissant qui était le point tournant dans la vie de Pierre. Lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. » C'est avec cette décision, avec cette réaction, le miracle a commencé. « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Merci Seigneur pour ta parole. Je prie pour que tu parles, que tu nous parles personnellement à travers ta parole ce matin. Merci. Merci pour ta présence. Merci parce que tu remplis toute la salle par ta présence. Et tu as une parole, tu as une puissance, tu as une action, un attouchement pour chacun personnellement. Je le libère au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ton action. Merci parce que tu glorifies Jésus parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dans n'importe quelle situation tu te trouves, il y a toujours auprès de Jésus-Christ, il y a toujours une solution. N'importe quelle situation désespérée, difficile, sans solution, auprès de Jésus, il y a toujours une solution. Pierre avait travaillé toute la nuit, il était fatigué, il était déçu avec tout son engagement. Pas eu de fruits, il n'y a pas eu de poissons. Et là, la parole de Jésus vient. Il dit, avance en eau profonde. Il faut prêter à la parole de Dieu si tu veux avancer dans ta vie. Il faut prêter à la parole de Dieu si tu veux rencontrer Jésus encore d'une manière plus profonde. Il faut prêter attention à la parole de Dieu. Il faut la recevoir pour que le Seigneur fait de toi la personne qu'il veut que tu sois. Jésus dit, avance en eau profonde, en pleine journée. Et Pierre était pêcheur professionnel, il savait qu'en pleine journée, on ne fait pas la pêche. Donc contre toute connaissance professionnelle, contre toute expérience, aussi contre toute, toute moquerie des gens, parce que lorsqu'il a décidé, Seigneur, mais sur ta parole, je le ferai. Il fallait voir tous les autres au bord du lac. Ils ont commencé à rire. Ils ont commencé à indexer Pierre et ses compagnons. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Non, c'est stupide. On n'a jamais fait ça. Ils ont parlé. Mais Pierre, il a décidé à accepter cela et à donner priorité à l'obéissance à la parole de Dieu. À croire et agir sur la parole de Dieu. Un miracle puissant se passer. Ils ont fait une pêche miraculeuse. Lorsque tu reçois la parole, lorsque tu entends la parole et tu prends la décision d'y croire et agir sur cette parole, tu ouvres une porte au Seigneur pour intervenir dans ta vie, pour faire un miracle, pour donner une solution là où il n'y a pas de solution. Mais tu crées l'ambiance pour que le Seigneur puisse agir puissamment dans ta vie. Mais souvent, ça marche ensemble avec sa parole et ta foi et ton obéissance. Maintenant, lorsque le miracle a eu lieu, ils ont vu les poissons dans la présence de Jésus, dans ce moment de la puissance de Dieu, où il a senti la puissance de Dieu, Pierre a reconnu son manquement. En face de Jésus, il tombe à genoux, il lui dit, « Ah, je ne suis pas digne, éloigne-toi de moi. » Il a senti son péché, il a senti toute sa différence avec le Seigneur. Et si nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, il faut qu'on passe par cette étape. Ce n'est pas grave. Au lieu de cacher nos manquements, de cacher nos erreurs, de cacher nos fautes, de cacher nos péchés, il vaut mieux de faire comme Pierre et avouer. Et dire, voilà Seigneur, je suis pécheur. Je n'ai pas réussi. Et Pierre souhaite que Jésus s'éloigne de lui. Je suis tellement content que Jésus n'a pas obéi à Pierre. Son cœur est complètement différent. Jésus a ouvert ses bras. Il a ouvert ses bras, il dit non. Au contraire, viens vers moi. Je t'accepte tel que tu es. Et jusqu'à aujourd'hui, Jésus fait la même chose. Il t'accepte, il t'aime tel que tu es. Il te prend dans ses bras et il est content de toi. Il veut que tu sois avec lui. Parce qu'il a une nouvelle destinée pour toi. C'est de ça que je veux parler spécialement aujourd'hui. Dans cette rencontre avec le Seigneur, je suis content que Pierre ne s'est pas arrêté au miracle. Nous avons travaillé pendant 20 ans dans des pays musulmans et nous avons vécu des miracles extraordinaires lorsque des aveugles voyaient, des boiteux se lever, ils ont jeté leur canne, des sourds muettes qui ont parlé. Mais plusieurs de ces musulmans guéris se sont retournés à la mosquée après. Ils ont eu leur miracle. Ils se sont retournés à la mosquée. Il y a des centaines qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont restés avec le Seigneur. Mais nous avons vu qu'un miracle seul ne peut pas changer un homme. Le Seigneur utilise des miracles pour nous attirer vers lui. Donc je suis très content que Pierre ne s'est pas arrêté au miracle pour dire « Ah, maintenant j'ai eu mon miracle ». Alléluia, alléluia, j'ai eu mon miracle, on va faire la fête. Non. À travers le miracle, il a eu une rencontre personnelle, très intime avec le Seigneur. Et c'est ça qui est devenu le point tournant de sa vie. Il a avoué son péché et il a vu que le Seigneur l'accepte. Quand même, malgré son péché, il le prend dans ses bras et là, il reçoit une nouvelle identité une vocation pour sa vie. Il dit, sois sans crainte, tu seras désormais pêcheur d'hommes. Je crois que Jésus est en train de, comme nous l'avons entendu tout à l'heure aussi, le Seigneur, il est en train de susciter une armée d'ouvriers pour la France. Le Seigneur, il aime la France. Et le Seigneur, il est en train de préparer un réveil puissant pour la France, une visitation divine pour la France. J'en suis convaincu. Le Seigneur me l'a confirmé plusieurs fois. Et il est en préparation de cela. Et il veut que tu fasses partie. Il cherche tout le monde, les grands et les petits, les jeunes, les adultes, les femmes et les hommes. Le Seigneur, il cherche à préparer, parce que lorsque le Seigneur agit dans un pays, il le fait toujours ensemble avec les hommes. Un jour, j'étais en Guinée, j'avais enseigné toute la journée à l'école biblique. J'étais épuisé parce qu'il faisait très chaud, très humide. J'étais épuisé parce qu'il y avait deux enseignants qui en manquaient. Donc, j'ai dû encore enseigner leurs cours aussi. Donc, j'étais épuisé. Mais le soir, on devait aller à l'intérieur du pays, à 600 kilomètres, pour une campagne d'évangélisation qui devait commencer le lendemain. C'était moi le chauffeur, c'était moi aussi le prédicateur de cette campagne. Et 600 kilomètres en Guinée, c'était 16 heures de route. On allait toujours en pleine vitesse, tout ce qui était possible, parce que c'était d'un trou à l'autre. On passait par des fleuves où des ponts étaient cassés, donc des routes parfois incroyables. Mais je dis, Seigneur, ce jour-là, je dis, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux plus. Je suis rentré dans ma chambre. On ne s'est pas encore connu à cette époque. J'étais encore célibataire chronique. Vous comprenez la différence entre les célibataires et les célibataires chroniques. Donc, moi, j'étais célibataire chronique à l'époque. Donc, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Et j'ai essayé je me suis allongé sur mon matelas et pour me reposer. J'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, pour la première fois, je dois renoncer. Je ne peux pas, je suis complètement épuisé. Je tourne. Et tout à coup, il y a une parole qui vient, elle vient comme une aiguille qui pique mon cœur. Elle dit, Hachim, si tu n'y vas pas, personne n'y va. Cette parole m'a tellement piqué que sur mon matelas, j'ai sursauté. J'ai dit, au nom de Jésus, je vais aller. Et à ce moment, la force est revenue. On a quitté à 18 heures le soir. J'ai conduit toute la nuit. On est arrivé vers 14 heures le lendemain à Fassankoni. C'est dans la contrée là où l'épidémie Ebola s'était déclenché. C'est dans cette contrée qu'on était, c'était vers la frontière entre la Guinée et le Libéria. Donc, et à 16 heures, on a prêché l'évangile. Je ne savais pas que là-bas, il y avait un petit groupe de jeunes, de jeunes chrétiens. Moins de 20 personnes, mais ils ont prié et jeûné pour nous. Donc, aujourd'hui, je sais d'où est venue cette force pour conduire toute la nuit. parce que ça a été libéré par la prière de ce groupe. Pendant 3-4 jours, on a prêché l'évangile, il y a des personnes qui ont accepté le Seigneur, il y a eu des guérisons. Il n'y avait pas un fruit énorme. Mais 2 ans après, j'ai appris qu'à partir de cette petite ville, il y a des personnes qui sont parties dans plus de 20 localités pour annoncer l'évangile. Il y a plusieurs églises qui se sont créées dans la contrée où Ebola s'est déclenché, plus tard, 20 ans plus tard. Nous avons appris qu'aucun chrétien, d'après notre connaissance, d'après la connaissance de nos amis en Guinée, il n'y a aucun chrétien qui a trouvé la mort à cause de Ebola. Le Seigneur les a protégés. On a un pasteur missionnaire qui s'appelle Pasteur Mohamed, un musulman converti, Josué Mohamed, Konaté. Il a perdu sa sœur, il a perdu sa maman à cause de Ebola. Ses parents n'étaient pas convertis, mais lui-même, le Seigneur, l'a épargné. Je veux parler de un peu plus sur la vocation. Parce qu'ici, Pierre, dans cette histoire, Pierre, il reçoit une vocation de pêcheur d'hommes. Il y a une vocation générale pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour nous en tant que croyants, en tant que chrétiens. Il y a la vocation spéciale pour toi en tant que personne. La vocation générale, c'est pour nous tous. Dieu nous appelle à devenir son enfant, sa fille et son fils. Il nous appelle à devenir son adorateur, un adorateur de Dieu. Il nous appelle, nous tous, à devenir des témoins de Jésus-Christ. Il nous appelle à devenir des intercesseurs. Il y a plusieurs choses auxquelles nous sommes tous appelés en tant que chrétiens. Ça, c'est notre vocation générale. Ça, c'est pour nous tous. Et ça, c'est la vocation la plus importante pour devenir enfant de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui est meilleur, qui est plus merveilleux que d'accepter Jésus-Christ pour la première fois dans ton cœur, comme ton sauveur et comme ton Seigneur. C'est lui seulement qui peut te donner la paix. Il va faire comme avec Pierre. Pierre a dit, non, 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 éloigne-toi de moi. Jésus dit, non, 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 je ne vais pas m'éloigner de toi, je vais te prendre dans mes bras. Si vous êtes là aujourd'hui et vous n'avez pas encore pris cette décision d'avouer vos manquements devant le Seigneur et de permettre que le Seigneur vous prenne dans ses bras pour la toute première fois de votre vie, c'est aujourd'hui votre jour. C'est aujourd'hui votre jour de salut. C'est aujourd'hui que le Seigneur dit, aujourd'hui, je veux te prendre dans mes bras. Et vers la fin du message, nous pourrons prier pour vous, si vous désirez, de prendre cette décision. C'est une décision importante. Mais il y a aussi une vocation personnelle. Pierre a reçu cette vocation personnelle comme pêcheur d'âmes. Il est devenu plus tard apôtre. Mais autant qu'apôtre, il était surtout évangéliste et pasteur. Ça, c'était son don berger. C'était son don principal, autant qu'apôtre. Il n'était jamais enseignant parce qu'il était illettré. Et il avait, les Guinéens allaient dire, il avait la bouche facile. Ouais, je suis conscient, je dois travailler mon français et... un peu, pour ne pas trop crucifier le français ici en France. Donc, mais j'aime cette expression parce que Pierre avait la bouche facile. Il parlait sans réfléchir même. Il parlait plus vite que réfléchir même. Donc, parfois, il a fait des dégâts à cause de ça. Mais, donc, ça indiquait aussi son don. Il pouvait parler. Il a prêché sous la puissance du Saint-Esprit. Après la Pentecôte, c'était vers la Pentecôte, c'était merveilleux. Mais quelle est ta propre vocation? Il y a certains qui disent, voilà, moi je n'ai pas eu une rencontre comme Pierre. Comment je peux savoir quel est l'appel de Dieu pour ma vie? Il n'y a pas tout le monde qui a une visitation spectaculaire avec le Seigneur. Si tu l'as eu, gloire à Dieu. Mais il n'y a pas tous qui ont des visitations comme Ésaïe, ou bien Moïse, ou comme Paul, ou Pierre, ou même Marie, où un ange est venu. Mes amis africains, plusieurs parmi mes amis africains, ils sont venus, ils ont dit, aujourd'hui, la nuit, Jésus est venu chez moi. Et ils m'ont parlé comment Jésus a fait, comment Jésus était, comment Jésus a parlé. J'ai dit, oh, Seigneur, j'aimerais aussi avoir une telle visitation un jour. Mais quand même, j'ai su aussi que le Seigneur m'a appelé moi-même aussi. Le Seigneur a différentes façons de nous adresser son appel personnel. Ce n'est pas toujours par des événements spectaculaires. Il y a d'autres façons aussi. Par exemple, Néhémie, dans la Bible, nous ne voyons pas que Dieu lui ait parlé une seule fois. Nous voyons seulement que Néhémie a entendu parler d'un besoin spirituel. Il a entendu parler que les murs de Jérusalem étaient tombés et la ville était désolate. Donc, ça l'a poussé à prier. Mais pas juste une petite prière, non. Il a prié et jeûné pendant des jours et des semaines. Entre Néhémie 1, chapitre 1, et chapitre 2, il y a 6 mois. Pendant 6 mois, il a intercédé pour sa ville natale, pour Jérusalem. Et je crois que c'est pendant ces 6 mois, il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque tu pries, Seigneur, ouvre tes portes. Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Je crois qu'un jour, le Seigneur a dit, oui, oui. C'est toi qui fais partie. C'est toi que je choisis. Je veux vous raconter une autre histoire. Il y avait un de nos missionnaires. Il était musulman. Il était gardien chez nous. Il était déjà vieux. Il s'appelait Moussa Mansari. Et un jour, il est tombé malade du paludisme. Et il a failli mourir. Et donc, nos frères en Guinée ont prié pour lui et le Seigneur a fait un miracle. Il l'a guéri. Et par la suite, il a donné sa vie à Jésus. Maintenant, moi, j'étais déjà au Sénégal, mais je venais en visite en Guinée. Et chaque fois, Moussa est venu me voir, il a dit, « Pasteur, quand est-ce que vous allez envoyer un missionnaire vers mon peuple, le peuple Lélé, parce qu'il n'y a aucun chrétien chez mon peuple ?» Son peuple était une minorité musulmane. Et j'ai dit, Moussa, il faut prier. D'accord, pasteur, je vais prier. Prie pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Une année plus tard, j'arrive, il m'accueille avec un grand sourire d'une oreille à l'autre. Il dit, oh, je peux faire maintenant l'école biblique. Je suis enregistré dans l'école biblique et c'est fantastique ce que j'apprends là-bas. Il était illettré. Il n'a jamais fait l'école. Il ne savait pas lire ni écrire. Mais La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous, on a organisé des écoles bibliques où même des illettrés pouvaient assister et même faire des tests. Encore une année plus tard, je reviens encore à Conakry, la capitale de la Guinée, et je rencontre Moussa, et encore, il sourit d'une oreille à l'autre. Il dit, pasteur, pasteur, il y a maintenant quelqu'un qui va aller chez mon peuple, le peuple Lélé. Mes responsables vont m'envoyer moi-même. Il est parti. Il a beaucoup souffert de la persécution. Beaucoup. Je ne peux pas rentrer dans les détails à cause du temps. Pendant un temps, à cause de la sorcellerie et tout ce qu'on faisait aussi contre lui, il était sourd. Les premiers croyants venaient après minuit dans sa petite paillote pour ne pas qu'on les voie. Tout se passait un peu en cachette. Mais le Seigneur a fait des signes et prodiges à travers lui, surtout des délivrances et des guérisons extraordinaires. Donc un an après, on était ensemble pendant la conférence et chaque missionnaire avait 10 minutes pour raconter. Moussa ne pouvait pas s'arrêter de raconter. Et personne ne voulait qu'il s'arrête. C'était comme dans un film. Il racontait comment Dieu l'a conduit au milieu de la persécution et comment Dieu a confirmé sa parole. Et il était le plus vieux parmi nous. Il avait plus de 60 ans. Il était assez grand pour un Guinéen. Il était assez grand. Il avait une voix basse et il disait, mes frères, je suis le plus jeune missionnaire parmi vous tous. Mais il y a une leçon que j'ai appris. Si tu as Jésus, tu as tout ce qu'il te faut. Je n'avais jamais oublié cette parole. Parce que 3 jours plus tard, il était mort. On l'a empoisonné à cause de sa foi. On a prié encore pour que le Seigneur le ressuscite. Mais on a vu, le Seigneur nous a montré une vision du ciel. Moussa était, il marchait dans le ciel et avait sa main dans la main de Jésus. Et il souriait, il regardait encore derrière et on savait, Moussa est content, il est tellement content, il ne veut même pas revenir. Parce que la souffrance était finie. Mais il avait donné sa vie pour que aujourd'hui il y a une église parmi le peuple Lélé. Il a donné sa vie pour ça. Donc chacun doit découvrir sa propre vocation. Il y a certaines personnes qui découvrent leur vocation comme les 7 diacres en acte 6, versets 1 à 7. Comment ils ont trouvé leur vocation? Bon, ils étaient juste des personnes fidèles, engagées à l'Église. Et c'est les responsables de l'Église qui les ont choisis. Il se peut que tu vas découvrir ta vocation à travers des hommes. À travers d'autres serviteurs de Dieu. Il y a différentes façons par lesquelles on peut reconnaître qu'on est appelé au service. Parfois, on a besoin de la parole d'un pasteur, de la parole d'une femme intercesseur qui dit, voilà, pour nous, parce qu'on le ressent déjà dans le cœur, mais parfois on est trop timide, on dit, non, moi je suis trop petit, j'ai encore beaucoup de défauts, etc. Parfois, le Seigneur utilise des hommes pour nous mettre dans les rails, sur les rails. Ou bien Philippe, l'évangéliste Philippe, il était un parmi les 7 diacres Mais il n'était pas, ça, c'était seulement une étape de servir à table comme diacre. Il est devenu évangéliste après. Nous pouvons lire ça en Actes 21, verset 8. C'est là où on l'appelle évangéliste. Mais la première fois, c'était en Actes 8, verset 4 à 8. Il avait la persécution à Jérusalem. Et autant que diacre, il est parti en Samarie. Et là-bas, il n'a pas trouvé de table à servir comme diacre. Il a juste suivi ce qu'il avait dans son cœur. Il a prêché le Christ. Et les gens ont vu le don d'un évangéliste parce qu'il y a des signes, des miracles qui se sont passés. Les gens ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc parfois, tu découvres ta vocation aussi à travers le don. Ou bien les gens autour de toi, ils reconnaissent ton appel à travers le don et le fruit de ta vie. Parce que Dieu, il n'appelle jamais quelqu'un sans l'équiper. Et tu peux inverser cette phrase aussi. Dieu n'équipe jamais quelqu'un avec un don sans l'appeler. Il y a les uns qui découvrent d'abord l'appel et après le don grandit. Pour les autres, c'est l'inverse. On découvre d'abord le don et à travers le don, ils découvrent il y a un appel de Dieu. C'est ça ce qui s'est passé avec Philippe. Mais ce qui est important, c'est lorsque tu sais ce que le Seigneur veut faire avec toi, tu dois répondre. En 2 Pierre 1, verset 10, nous lisons. C'est pourquoi, frères, je crois que les sœurs sont incluses aussi. Amen. Merci. Merci pour votre amen. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, efforcez-vous. Efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne prêcherez jamais. C'est une chose de recevoir l'appel. C'est une chose de savoir, d'avoir aussi le sentiment, le Seigneur m'appelle pour quelque chose bien précis, ou bien j'ai une vision, ou bien je reçois des paroles prophétiques et ça, de plus en plus, ça va dans la même direction, et je ressens, le Seigneur me prépare, mais il y a toujours l'action de Dieu et l'action de l'homme qui doivent se rencontrer. Toujours. L'appel de Dieu, ça vient de Dieu. On ne peut pas le fabriquer nous-mêmes. Mais il faut notre réponse. Et une façon de répondre, c'est d'affermir. Il faut un effort. Il faut affermir notre vocation. Comment on peut le faire? Il faut prier. Il faut s'engager dans l'Église. Si tu es appelé comme évangéliste, c'est peut-être pas comme évangéliste que tu vas commencer. Lorsque le Seigneur m'a appelé pour le champ missionnaire en Afrique, j'ai dit, et ça tardait. Il m'a appelé en 1980. Je croyais que dans 3 jours, je vais démarrer. Mais l'Église m'a envoyé en 90. 10 années de préparation. Et lorsque, à un moment, j'étais découragé, j'ai demandé au Seigneur, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse encore ?» Il dit, « Va vers les enfants. » Donc je me suis engagé à l'école de dimanche. Je dis toujours, je n'ai pas un don spécial pour les enfants, juste pour trois. Hein? Pour trois enfants, pour mes enfants. Là, j'ai vraiment un don. Hein? Mais je ne suis pas très doué pour les enfants en général. Par exemple, ma fille, elle aime beaucoup, elle a un don pour les enfants. Mais pour moi, j'ai juste un don pour trois enfants, pour nos propres enfants. Mais c'est avec les enfants ne sont pas comme les adultes. Si ton message, si l'histoire que tu leur racontes, si elle n'est pas belle, tu vas tout de suite le sentir. Vous êtes très poli aujourd'hui. Avec mon français cassé et tout ça, vous êtes tranquille, vous me regardez gentiment, etc. Mais avec les enfants, on peut voir la réaction tout de suite. Et ça m'a beaucoup préparé pour l'Afrique. Parce que lorsque tu dois prêcher dans des situations où il y a 40 degrés à l'ombre, où les gens ont du mal, et lorsque tu parles trop compliqué, les gens vont commencer à dormir. Parce que, donc, il fallait apprendre à parler comme les Africains, avec des images, avec des histoires, avec... voilà. C'est les enfants en Allemagne, à l'église en Allemagne, qui m'ont enseigné comment prêcher dans les villages de l'Afrique. Il faut dire, en Afrique, souvent, j'ai parlé avec interprètes, et parfois, il y avait deux interprètes. Donc, si tu veux entrer dans ta vocation, il faut aussi chercher des conseils avec des responsables, avec ton pasteur. Il faut être juste, il faut être fidèle dans les petites choses. Le Seigneur va te confier des plus grandes choses si tu es fidèle dans les petites choses. Vers la fin, je veux revenir sur l'histoire de Pierre et Jésus. Pierre a reçu cette vocation de pêcheur d'hommes, mais Pierre et Jésus l'a appelé pour devenir son disciple. Et Pierre a commencé à suivre Jésus. Et Pierre n'était pas encore à la hauteur. Il a déraillé plusieurs fois. Mais Jésus nous a laissé un exemple merveilleux. Jésus l'a pris par la main et il ne l'a pas lâché. Il l'a accompagné. Et je suis convaincu, je l'ai vu, je l'ai vécu en Afrique, je l'ai vécu en Allemagne aussi pendant les derniers 7 ans. Nous avons beaucoup travaillé parmi les réfugiés. Vous avez entendu, il y a beaucoup de réfugiés qui sont venus en Allemagne. Donc, il y a beaucoup qui sont aussi venus à l'église. Il y a plusieurs Iraniens, il y a plusieurs Syriens, Irakiens, Afghans qui se sont convertis dans notre église. Nous avons maintenant une église arabe, une église iranienne. Nous avons 20 églises étrangères sous le toit de notre église à Stuttgart. Et j'étais coordinateur de ces églises internationales. Donc, j'ai vu que pour que quelqu'un puisse entrer dans sa vocation personnelle de Dieu, souvent il faut que quelqu'un soit là pour le prendre par la main, pour l'aider, pour l'accompagner, pour l'assister, pour le conseiller, pour l'encourager. Et parfois aussi pour lui laver la tête. Il faut des personnes qui peuvent parler dans ma vie. Et Jésus a fait cela avec Pierre. Il a vu le potentiel en Pierre, mais il a vu en même temps les manquements aussi. Il lui avait déjà enseigné beaucoup de choses pendant 3 ans. Il avait suivi Jésus. Après, vers la fin encore, Pierre était tellement convaincu de lui-même, il dit, si tout le monde va te quitter, moi, je ne vais pas te quitter. Moi, je suis même prêt à mourir avec toi. Moi. Oh, Jésus, il fallait qu'il brise ce moi. Même après 3 ans avec Jésus, il avait toujours ce moi. Mais Jésus ne l'a pas lâché. Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Satan a essayé de vous ramasser. Moi, je n'ai cessé de prier pour toi. Et lorsque tu reviendras, il lui a parlé. Après, Pierre encore a renié de connaître Jésus. Jésus l'a permis, mais Jésus ne l'a pas lâché. Il a encore, lorsque Pierre a quitté la cour du sacrificateur de Caïphas, Jésus encore l'a vu, l'a regardé. Et Pierre a reçu le regard de Jésus. Il a pleuré amèrement. Amèrement, c'est comme ça. Et après la résurrection, Jésus est revenu vers lui. Il dit, Simon Pierre, m'aimes-tu? Donc il est revenu sur cette affaire. Il n'a pas ignoré. Non, tout va bien. Non. Jésus est revenu parce qu'il savait qu'il faut qu'on règle ce problème pour que mon champion, Pierre, puisse vraiment aller jusqu'au bout. Et Jésus l'a aidé. Il a demandé 3 fois, est-ce que tu m'aimes vraiment? Il dit, prends soin de mon troupeau, de mes brebis. Donc, pour entrer, je veux terminer avec cela, pour entrer dans notre vocation personnelle avec le Seigneur a une stratégie biblique. C'est d'être accompagné par des personnes autour de nous. Il nous a laissé cet exemple. Pierre et Timothée ont fait la même chose. Paul, l'apôtre Paul, avec son fils spirituel Timothée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ressentent l'appel de Dieu, mais après il y a quelque chose qui se passe, il y a un problème, ils sont découragés, et ils risquent d'abandonner, ils sont aussi découragés avec l'Église, parfois découragés avec le pasteur. Pourquoi il ne m'a pas salué? Pourquoi il m'a parlé durement comme ça? Pourquoi il ne m'a pas écouté? Bon, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans la vie de l'Église aussi. Mais l'école de Jésus-Christ emploie toujours aussi des hommes et des femmes qui sont à côté de nous pour qu'on puisse tenir le coup et pour qu'on entre dans cette vocation que le Seigneur a pour notre vie et qu'on puisse porter du fruit et beaucoup de fruit. Je suis fier de dire que certains de nos disciples nous ont dépassés. Il y a un disciple en Guinée, celui qui est responsable du travail aujourd'hui en Guinée, il dirige 40 églises. Bon, il a une grande équipe. Il dirige plus de 40 églises, plus de 10 écoles. École maternelle, école primaire, école, juste certaines écoles. Il y a 2 écoles qui vont jusqu'au lycée, 4 centres de santé. Et ils ont une passion pour le Seigneur et pour leur peuple. C'est incroyable, c'est touchant. Lorsque je le vois, je dis, mais je peux devenir son élève maintenant. Pourtant, lui, il me respecte toujours comme son papa spirituel. Mais dans sa vocation, dans son don, il nous dépasse aujourd'hui. Mais il est resté humble. Il sait que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. J'aimerais... Est-ce qu'on peut jouer un peu le piano? J'aimerais... Comme je suis en France maintenant, je ne suis pas en Afrique. Donc en Afrique, c'est pas grave si on prêche 2 heures ou bien 3 heures. Donc mais je vais respecter quand même les limites ici. Donc je suis encore dans les limites. J'aimerais donner l'occasion pour répondre à la parole du Seigneur. Je crois que le Seigneur a parlé à l'un ou l'autre parmi nous. Si tu es là aujourd'hui et tu dis, oui, moi, je n'ai jamais vécu encore cette rencontre, cette première rencontre avec le Seigneur. Je n'ai jamais encore vécu ce moment de recevoir Jésus dans mon cœur pour la première fois. Comme Pierre, lorsque Pierre était confronté avec la personne de Jésus, il a dit, oh, éloigne-toi de moi. Si c'est ton cas, si c'est ta situation, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle, viens vers moi. Je suis prêt à te recevoir. Je veux te prendre dans mes bras. Je veux te donner tout mon amour. Je veux te donner une nouvelle identité et aussi une nouvelle destination, une nouvelle destinée pour ta vie. Le Seigneur, il frappe à la porte de ton cœur. Et si tu entends sa voix et tu ouvres cette porte, il va entrer. Il va entrer dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais pris cette décision et il dit aujourd'hui, je veux, pour la première fois, je veux confier ma vie à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, si tu es là, si vous êtes là, juste levez la main, j'aimerais prier pour vous. Pour que le Seigneur vous touche d'une manière personnelle. Je regarde juste à gauche, à droite. Si vous êtes là, le Seigneur est là pour vous. Il vous attend. Il ne vous rejette pas, mais il vous accueille à bras ouverts. Je regarde une dernière fois. Juste levez la main si ça vous concerne et j'aimerais prier pour vous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et le deuxième groupe de personnes pour lequel j'aimerais prier, c'est que j'aimerais te donner... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit, oui Seigneur, je veux confirmer. Aujourd'hui, je veux te confirmer, je veux affirmer, je veux te dire, je veux continuer à marcher avec toi et à te servir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit oui? Il veut, je veux. Oui? Juste pour un signe pour le Seigneur et peut-être aussi pour moi, levez votre main. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous. Alléluia. 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 Merci Jésus. Seigneur, je bénis chacun qui est là. Je libère ta grâce, ta présence dans sa vie. Seigneur, tu vois chacun. Tu vois le désir de chacun de te servir. Et je libère ta puissance et ta présence maintenant dans sa vie. Je libère ta vocation, une plus grande clarté sur ta vocation, sur ta direction dans sa vie. Seigneur, je veux que tu révèles ta volonté pour chacun personnellement, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, viens encore plus avec ta puissance et remplis cette salle. Seigneur, nous voulons te dire oui. Nous voulons te dire oui, nous voulons te servir. Nous ne voulons pas nous reculer. Nous voulons aller de l'avant avec toi. Au nom de Jésus. Seigneur, je ressens qu'il y a plusieurs personnes ici que le Seigneur veut vous toucher. Il veut déclencher quelque chose dans votre marche avec le Seigneur, dans votre vocation pour le Seigneur. Ce n'est pas un homme qui peut faire ça, mais je sens que le Seigneur veut déclencher une nouvelle étape, une plus grande clarté. Donc, si ça répond à votre désir, à votre conviction, à ce que vous sentez dans votre cœur, juste venez devant, avancez-vous, nous allons prier pour vous devant. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Juste venez devant. Venez au. Oui, voilà. Venez aussi au milieu. Faites un peu la place. Alléluia. Alléluia. J'aimerais aussi demander à l'équipe de ministère de venir aussi pour qu'on prie ensemble. Je ressens dans mon cœur que c'est comme le Seigneur, il prend plaisir lorsque toi tu confirmes, tu dis oui Seigneur, je veux continuer. Je ne veux pas abandonner. Même si tu dis Seigneur, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je dois faire. Tu ne me l'as pas encore révélé. Là aussi, je ressens dans mon cœur que nous voulons prier pour toi. Nous n'allons pas te dire, à moins que le Seigneur donne une révélation, ce que le Seigneur veut faire avec toi. Mais je crois qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura quelque chose déclenché où tu auras une plus grande clarté sur ce que le Seigneur veut que tu fasses. Amen. Amen. Donc lorsque nous allons prier pour toi, ensemble, en équipe, ne regardez pas les hommes qui prient ou les femmes qui prient pour toi, mais reçois de la part du Seigneur. Reçois cet attouchement de la part du Seigneur. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
J'avais simplement en vision une personne qui, sur son chemin, a trébuché sur une pierre, un obstacle, et avait du mal à se relever. Et le Seigneur lui dit, moi je suis celui qui relève, qui te relève, qui relève ceux qui sont tombés. Je ne te condamne pas, je te prends par la main et je te relève. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Donc on va prendre ce temps pour prier pour ceux qui sont avancés, ceux qui doivent partir, vous pouvez le faire. Si vous restez ici, merci de prier avec nous, de rester dans cette ambiance de prière. Le Seigneur veut relever plusieurs et affermir la vocation de plusieurs au milieu de nous, de tous ceux qui sont avancés.